Voilà, chers amis, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous apporter le message qui va se baser, vous le voyez sur l'écran, sur le texte de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7, mais nous allons lire les versets 6 à 14. Fort, aimant et réfléchi. C'est en fait une exhortation que Paul adresse à son jeune collaborateur, Timothée. Alors, est-ce que je vais dans le bon sens ? Oui. Voici ce que dit l'Écriture. « C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. » Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie donc pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de Jésus-Christ, à cause de sa grâce, pardon. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Tu as entendu de moi des paroles de vérité, faisant ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Et je reprends le verset sur lequel j'aimerais porter notre attention. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Dans son livre « La force d'aimer », Martin Luther King raconte une expérience personnelle en ces termes. Je le cite. « Les 24 premières années de ma vie furent des années sans histoire. Je n'eus ni problèmes fondamentaux, ni difficultés. Ce ne fut que lorsque je devins partiellement responsable du boycottage des autobus à Montgomery que je fus confronté réellement aux épreuves de la vie. Presque aussitôt, après le lancement de cette protestation, nous commençâmes à recevoir à domicile des menaces par téléphone et par lettre. À la fin d'une journée particulièrement chargée, je me couchais à une heure tardive. Ma femme dormait déjà et j'étais sur le point de m'assoupir quand le téléphone sonna. Une voix en colère dit « Écoute, nègre, nous en avons assez de toi. Avant la semaine prochaine, tu regretteras d'être venu à Montgomery. » Je raccrochai, mais le sommeil était parti. Il me semblait que toutes mes craintes m'étaient revenues d'un coup, j'avais atteint le point de saturation. Dans un état d'épuisement, alors que mon courage était presque entièrement perdu, je décidai de remettre mon problème à Dieu. La tête dans les mains, je m'inclinai sur la table de la cuisine et je priai à haute voix. Ce que je dis à Dieu cette nuit-là est encore vivant dans ma mémoire. Je me suis dressé ici pour ce que je crois être juste, mais maintenant j'ai peur. Les gens se tournent vers moi pour être guidés, et si je vais devant eux sans force et sans courage, eux aussi chancelleront. Je suis au bout de mes forces. Il ne me reste rien. J'en suis venu au point où seul, je ne puis plus faire face. À ce moment même, j'eus conscience de la présence divine comme jamais auparavant. C'était comme si je pouvais entendre la tranquille assurance d'une voix intérieure, debout pour la justice, debout pour la vérité. Dieu sera toujours à tes côtés. Presque aussitôt, mes craintes commencèrent à me quitter. Mon incertitude disparut. J'étais prêt à tout affronter. La situation extérieure n'avait pas changé, mais Dieu m'avait donné le calme intérieur. Trois nuits plus tard, notre maison sauta. Cela peut paraître étrange, mais je reçus calmement cette nouvelle. Mon expérience avec Dieu m'avait rendu courage et confiance. Je sais maintenant que Dieu peut nous donner les ressources pour faire face aux tempêtes et aux problèmes de la vie. J'arrête là la lecture de cet extrait de Martin Luther King. L'expérience, mes amis, que Martin Luther King a fait dans les circonstances peu communes de la lutte pour les droits civiques, c'est celle que Paul a encouragé Timothée à faire en lui écrivant « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Je discerne trois vérités qui nous concernent toutes. Il n'y a pas d'amour véritable sans courage. Il n'y a pas non plus de courage vrai sans don de Dieu. Et il n'y a pas de don de Dieu sans responsabilité. Pas d'amour sans courage. Quand Paul parle à Timothée de force, d'amour et de sagesse, ou d'un esprit qui rend fort, aimant et réfléchi, il me semble qu'il l'invite à faire preuve d'un amour plein de courage. Ce qui me conduit à parler de courage, c'est que dans le même verset, il précise « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, ou bien dans d'autres traductions, ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que Dieu nous a donné. » Pourquoi cette exhortation ? Tout d'abord parce que Timothée en a besoin. Le portrait que l'apôtre Paul nous livre de son jeune collaborateur, son enfant spirituel, c'est celle d'une personne relativement fragile, probablement malade de l'estomac. Vous vous souvenez, il fallait qu'il prenne un peu de vin pour son estomac. Plutôt timide et qui connaît des moments de découragement. Voici quelques éléments qui le montrent dans les Écritures. Timothée est jeune, selon les critères de l'époque. C'est-à-dire qu'il a moins de 40 ans. Vous êtes bien lotis, les amis. Pas moi. Il n'est donc pas aisé, dans sa culture, d'user d'autorité dans l'église d'Éphèse. Et c'est pourquoi l'apôtre doit lui dire « Que personne ne méprise ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. » Paul éprouve aussi le besoin de dire à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Comme si Timothée était découragé ou bien comme s'il avait laissé son zèle pour l'évangile s'attiédir. Enfin, l'apôtre juge nécessaire de l'encourager à ne pas avoir honte de l'évangile. Comme si Timothée était habité par le doute ou par la crainte. Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse. pour signaler ce qui, à mon sens, est une première bonne nouvelle dans ce texte. Dieu n'appelle pas seulement à son service des Paul au caractère bien trempé et à la force peu commune. Il appelle aussi des Timothées, timides, hésitants, fragiles, effrayés. Ne soyez donc pas surpris par l'appel de Dieu comme si vos qualités personnelles ne le justifiaient pas. À certains égards, vous avez raison entièrement. Vous ne méritez pas, moi non plus, la confiance qu'il vous fait de vous appeler à son service. Ce n'est là, en fait, que pure grâce. Mais Dieu ne se trompe pas. Il accomplit son œuvre aussi avec des gens ordinaires, comme vous et moi. Des gens timides et hésitants, des gens fragiles et effrayés. Et c'est une bonne nouvelle, car il y a place pour tous dans le royaume de Dieu. Je reviens à l'exhortation que Paul adresse à Timothée. Elle a été donnée d'abord parce que Timothée en a besoin, et ensuite, à mon avis, parce que l'amour véritable est exigeant. Dans un monde qui use du mot « amour » à tout propos, il me paraît utile de préciser de quel amour parle Paul ici. Ce n'est pas l'amour-passion qui emporte tout sur son passage et ne laisse bien souvent que misère et que ruine. Ce n'est pas non plus l'amour-sentiment qui va, qui vient et qui parfois ne revient pas et sur lequel il n'est guère possible de construire des relations durables. Ce n'est pas non plus l'amour-plaisir qui consiste à se faire du bien et prend fin lorsque la relation engendre plus de tracas que de joie. Non, mes amis, c'est l'amour-décision qui sait que la passion peut être trompeuse. Le sentiment fluctuant et le plaisir limité, mais qui a appris que l'on peut choisir d'aimer et s'y tenir avec l'aide de Dieu. Ce qu'on appelle aussi l'amour don de soi, qui a découvert une belle vérité magnifiquement illustrée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est bien de cet amour-là dont il est question dans notre passage. Il s'agit de souffrir pour l'Évangile, donc de se donner à Christ parce qu'il nous a sauvés. Souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Au fond, que dit Paul à Timothée ? Qu'aimer Dieu et le servir, requiert un vrai courage. Ou plus généralement, qu'il n'y a pas d'amour véritable sans courage. Et ce qu'il dit de la foi et du service de Timothée peut se dire de notre vie sous le regard de Dieu. Aimer Dieu, aimer notre conjoint, aimer nos enfants, aimer nos amis, aimer notre prochain, ce n'est pas une mince affaire. Comme Timothée, il nous arrive de nous sentir démunis à cause de notre inexpérience, découragés par la baisse de notre flamme ou de nos sentiments, effrayés par les épreuves qui surviennent ou pourraient survenir. Paul nous dit alors qu'il n'y a pas d'amour véritable sans courage. Aimer, c'est faire face à l'inexpérience de l'autre et à la nôtre. Apprendre à tirer des leçons de nos échecs, ne pas se laisser arrêter par la baisse des sentiments, mais rester fidèle à la parole que nous avons donnée à Christ lors de notre baptême, ou à notre conjoint lors de notre mariage. Aimer, c'est accepter de souffrir pour le Christ, pour le prochain, et parfois à cause du prochain. Mais alors, me direz-vous, où trouver le courage d'aimer ? Eh bien, mes amis, il n'y a pas de courage sans don de Dieu. Si je reviens à Timothée, le courage auquel Paul l'appelle n'est pas à trouver en lui-même. L'apôtre ne lui dit pas « Sois fort, aimant et réfléchis par toi-même ». Il ne s'agit pas de puiser dans nos ressources propres, de serrer les dents et d'attendre des jours meilleurs. Ce discours-là, c'est celui des hommes et des femmes qui n'ont pas le privilège de connaître Dieu et son amour. Ils cherchent en eux-mêmes la force de faire face aux situations, de rebondir quand ils connaissent des épreuves ou le désaveu ou l'échec. Nombreux, malheureusement, sont ceux qui tombent dans la désillusion, la dépression ou le désespoir. Et parmi ceux qui réussissent à tenir bon, parce qu'il y en a, beaucoup trouvent le courage de s'en sortir, mais peu le courage d'aimer. Ils sauvent leur peau, mais ils perdent la capacité de penser aux autres, de se donner pour eux, de chercher leur bien. Ils ressortent de l'épreuve plus forts, mais aussi plus durs envers leur entourage. Ce que Paul dit exactement, c'est « Dieu nous a donné un esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis ». Alors, il faut s'arrêter quelques instants sur une question de traduction. Dans la langue du Nouveau Testament, le mot « esprit » peut vouloir dire indifféremment l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu. Quand, dans la traduction de la Colombe, il est dit « ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse », elle laisse entendre qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Dieu, dans ce cas, donne à l'homme une certaine force d'âme qui lui permet d'être fort, aimant et réfléchi. Quand la traduction que j'ai utilisée dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend fort, aimant et réfléchi », elle opte pour le sens « esprit de Dieu » et non « esprit de l'homme ». Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, d'abord parce que, dans le contexte, dans ce que j'ai lu, il est question du don que Dieu a fait à Timothée par l'imposition des mains de Paul, c'est-à-dire le don du ministère. Or, ce don dans l'Épître aux Corinthiens, dans une autre épître, est un don de l'Esprit-Saint. Deuxièmement, le parallèle avec des textes voisins sous la plume du même apôtre nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. » C'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et c'est bien de l'Esprit-Saint qu'il s'agit. Alors pourquoi rentrer dans ce détail un peu technique? Parce que mes amis, si vous me permettez l'expression, ça fait une sacrée différence. Si Dieu a donné à Timothée une certaine force d'âme, une capacité à être fort, aimant et réfléchi, il s'agit d'un coup de main appréciable. Mais si Dieu a donné à Timothée son esprit, qui le rend fort, aimant et réfléchi, c'est plus qu'un coup de main appréciable. C'est une présence quotidienne, vivifiante, inestimable. Ainsi, le courage d'aimer Dieu et de le servir ne se trouve pas en Timothée, mais chose incroyable. En Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous réalisez ce que veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. Cela signifie que le Dieu Tout-Puissant, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, a fait le choix par son Esprit d'habiter dans ma misérable demeure. Vous imaginez la nouvelle? Est-ce que vous en êtes conscient? Quand vous allez au travail le matin, ou que vous venez de vous disputer, peut-être, avec vos proches, Timothée peut être jeune, il peut être inexpérimenté, il peut être découragé, voire effrayé. Il n'est pas seul. Dieu a mis en lui son Saint-Esprit. Il l'accompagne quotidiennement et lui donne la mesure de foi et de force nécessaire pour tenir bon et surmonter les difficultés. L'apôtre, au fond, ne lui dit rien d'autre que ce que Jésus avait dit à ses disciples au moment de les quitter. Vous vous souvenez ? Voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Je suis moi-même. Alors on peut se dire, oui, c'est une figure de style. Non. Le Saint-Esprit nous a été donné, qui habite en nos cœurs et nous accompagne tous les jours. Ne pas se savoir seul dans la difficulté, n'est-ce pas au fond ce dont Timothée a le plus besoin ? Bien, mes amis, cette étonnante nouvelle annoncée par Paul à son jeune collaborateur Timothée, elle est pour nous. Elle est aussi pour nous, pour chacun de nous. Nous n'avons pas, nous n'aurons pas besoin de chercher en nous-mêmes désespérément le courage et la force d'aimer Dieu et notre prochain, de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur malgré l'opposition, de traverser les moments de doute dans la foi, de surmonter les déceptions dans les relations, de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, et plus généralement de tenir bon dans l'épreuve, parce que le courage d'aimer vraiment se trouve en Dieu, qui a mis, qui fait habiter en nous son esprit. Comme le Seigneur l'a si bien montré à un Martin Luther King, effrayé par la haine que son combat pour ses frères noirs suscitait, debout pour la justice, debout pour la vérité, Dieu sera toujours à tes côtés. Nous pouvons donc, frères et sœurs, avancer confiants sur le chemin de la foi. Continuer à mettre nos pas dans ceux de notre Sauveur. Nous arriverons à bon port. Oh non, pas sans quelques tempêtes. Mais nous arriverons à bon port, car il nous a donné son esprit. Nous ne sommes pas seuls pour traverser la vie et affronter la mort. Pas de courage sans don de Dieu, mais pas de don de Dieu sans responsabilité. Si Dieu fait don par son esprit du courage nécessaire à un amour véritable, ben alors quelle est la part de l'homme ? Que lui reste-t-il à faire ? Eh bien tout, en fait. Si nous considérons ce que Paul dit à Timothée. En effet, il multiplie les impératifs à son attention. Il lui écrit « Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce ». Et après ce même verset, il l'invite à agir en ces termes « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison. Souffre avec moi pour l'Évangile. » Pour le dire autrement, l'apôtre demande à son jeune collaborateur de mettre sa foi en action. Puisqu'il sait que Dieu est avec lui et que l'Esprit de Dieu lui donne la force et l'amour pour vivre en témoin courageux, alors il l'enjoint à recevoir aussi la sagesse que donne l'Esprit pour agir en conséquence. Agir en conséquence, c'est-à-dire oser ouvrir la bouche sans crainte et accepter de souffrir pour l'Évangile. Et dans l'un et l'autre cas, croire fermement que le Seigneur lui donnera la mesure de force et de foi pour assumer la vie risquée et agitée qu'implique un véritable amour de Dieu et du prochain. Cela a un nom, mes amis. Ça s'appelle marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la foi et non par la vue. Avancer en croyant que ce que Dieu dit est plus solide et plus vrai que ce que nos sens ou nos craintes nous disent. L'Évangile est donc exigeant, mais il est aussi, mes amis, édifiant. Voyez-vous, en nous faisant don de son esprit, Dieu n'étouffe en nous ni notre tempérament, ni notre capacité d'initiative. Vous savez, Timothée n'est jamais devenu un Paul. Il est resté timide, mais utile. Au contraire, Dieu nous donne les moyens d'être vraiment nous-mêmes en nous confiant des responsabilités. Le don de son esprit ne consiste pas à prendre possession pour faire de nous, pour faire les choses à notre place. Nous ne sommes pas possédés par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre des démons. Non, il habite en nous pour nous élever en capacité, en responsabilité, pour que nous fassions les choses en son honneur. Ainsi, je crois pouvoir dire fermement qu'il n'y a pas de don de Dieu sans responsabilité dans la vie chrétienne. Tu as un talent, 5 talents, 10 talents, que vas-tu en faire ? Mais qu'est-ce que cela peut signifier concrètement pour nous ? Que si nous ne sommes pas seuls pour avancer sur le chemin de la foi, pour aimer Dieu et notre prochain, notre responsabilité reste entière pour mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. À partir du moment où nous avons choisi de suivre Christ, à partir du moment où nous avons promis de lui rester fidèles en passant par les eaux du baptême, nous sommes devenus responsables devant Dieu et devant nos frères et sœurs des engagements que nous avons pris. En nous accordant son esprit, le Seigneur nous a donné les moyens de tenir la parole prononcée. Il nous a donné les moyens d'être forts, aimants et réfléchis. Mais c'est un peu comme les piles d'autrefois, on disait qu'elles ne s'usent que si l'on s'en sert. Eh bien, ces moyens ne serviront que si nous en faisons vraiment usage. Mes amis, quand nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous, ou pourquoi il permet tel échec dans notre vie, cette parole de Paul nous invite à ne pas nous laisser dominer par le découragement, la déception, ou même le ressentiment, mais bien plutôt à nous tourner vers lui pour lui exprimer notre frustration ou nos interrogations, car il nous en donne la liberté. Nous tourner vers lui et compter encore sur l'aide de son esprit qui habite en nous pour tenir bon et repartir. De même, mes amis, quand nous ne sentons pas la présence de Dieu, ça vous arrive peut-être, ou que nous n'avons plus ces merveilleux sentiments de joie et de paix qui ont marqué les débuts de notre vie chrétienne, cette exhortation de l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas baisser les bras et à ne pas tout remettre en question. Vous savez, quand vous ne sentez rien, ce n'est pas que Dieu est absent, c'est que vous ne sentez rien. Il est là. Il est là. Le don de son esprit, sa présence en nous, ne dépend ni des circonstances, favorables ou non, ni des sentiments, agréables ou non, mais de sa seule et incomparable grâce. Ce qu'il a fait en notre faveur ne dépend aucunement de nos mérites, mais de son amour librement et généreusement accordé. Et mes amis, c'est parce que tout dépend de lui que rien ne peut nous être repris. Que nous ne le sentions pas ne change rien à l'affaire. Dans ces moments-là, c'est plus que jamais temps de croire et de s'attacher à sa parole. Enfin, mes amis, quand les relations fraternelles se gâtent, ne nous laissons pas aller à la rancune et à la médisance. Ne nous tournons pas les uns contre les autres, comme c'est si facile de le faire dans la vie de l'Église. C'est bien plutôt le moment de nous tourner ensemble vers Dieu pour trouver auprès de lui la force de nous pardonner les uns les autres et de repartir en nous aimant. Il a promis de nous donner le courage de nous aimer. Croyons-le envers et contre tout et agissons en conséquence. Et nous ferons l'expérience bénie qu'une épreuve traversée, une déception surmontée, une blessure pardonnée, loin d'amoindrir l'amour fraternel, le renforcera. serrons dans notre cœur l'exhortation de Paul à Timothée. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Croyons à cause de l'Écriture qu'elle est aussi pour nous, cette parole. Et vivons en conséquence. Nous découvrirons ou nous redécouvrirons que la parole de Dieu est vivante et qu'elle change la vie dans ses aspects les plus quotidiens. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Je vous invite à la prière. Tu nous as donné ton esprit. Il habite en nous et nous ne mesurons pas toujours l'immense privilège que tu nous as fait. Accorde-nous, Seigneur, de vivre par la foi et non par la vue, de croire envers et contre tout, quand bien même la tempête fait rage, que tu ne nous as pas abandonnés, mais que tu es là. Et que dans des circonstances adverses, tu peux nous donner d'être fort aimant et réfléchi pour aimer notre conjoint, nos enfants, nos parents âgés, nos frères et sœurs dans l'Église, et surtout toi, toi qui nous as sauvés et qui t'es donné pour notre salut. Et nous te confions maintenant ce temps où nous allons partager le pain et le vin, symbole de ton corps et de ton sang. Fais-nous la grâce de prendre ces éléments en étant conscient de tout ce qu'ils représentent, de l'amour que tu nous as manifesté au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je pourrais avoir un micro ?
J'ai lu cette semaine sur Twitter un témoignage que j'ai trouvé touchant. Une jeune professeure américaine raconte qu'un de ses élèves, et vous savez qu'aux États-Unis on apprend à conduire très tôt, on peut conduire à partir de 16 ans, avait eu la malheureuse expérience de tuer un autre jeune en voiture. Et elle disait que ce pauvre adolescent était complètement détruit par cette expérience terrible. Mais elle ajoutait, vous savez ce qui lui a permis de guérir, c'est que les parents de la victime l'ont invité à manger et lui ont pardonné. Le repas que nous allons partager est celui qui symbolise ce que le Seigneur a fait pour notre pardon. Nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par des choses vaines et périssables, non, mais par le sang précieux de l'agneau. Et c'est pourquoi le repas du Seigneur, c'est quelque chose d'important. Parce que nous signifions ensemble que nous sommes au bénéfice de la même grâce, du même rachat. Et donc, que nous ne pouvons pas faire comme si nous n'étions pas frères et sœurs. Et j'aimerais vous lire, alors habituellement on lit des passages assez circonscrits, j'aimerais vous lire un peu plus largement, dans 1 Corinthiens 11, ce que Paul dit, et vous serez surpris. Écoutez, puisque j'en suis aux directives d'un Corinthiens 11 à partir du verset 17, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela « prendre le repas du Seigneur ». Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Vous avez entendu cet avertissement que Paul livre aux Corinthiens juste avant de nous inviter à prendre le repas du Seigneur est une façon de nous dire que nous ne pouvons pas à la fois manifester notre communion en participant au même pain et en buvant à la même coupe et en même temps faire comme si nous pouvions nous mépriser, nous ignorer, nous disputer. Alors Paul ne dit pas à ses frères et sœurs, pourtant pas très exemplaires, de s'abstenir. Il leur dit que chacun s'examine et qu'il boive et qu'il prenne le repas. C'est-à-dire que c'est l'occasion ou jamais de rentrer en nous-mêmes et de dire au Seigneur, « Seigneur, je voudrais que ma vie soit cohérente. » Et si jamais il y avait des choses à régler, vous savez, après le culte, il y a moyen d'aller voir l'un ou l'autre et de dire « J'aimerais parler avec toi parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entre nous. » Que le Seigneur nous fasse la grâce, non seulement de prendre le pain et le vin, mais de vivre la réalité de la communion que cela représente. Je vais inviter Délius et Afonso à s'avancer, ainsi que Rosie et Christine.